Retour du podcast, enfin, je dirais pas saison 2, j'ai pris une petite pause pour focusser beaucoup sur le web 3.0, donc tout ce qui est NFTs, crypto, je me suis vraiment imprégné de tout ça pendant les 5-6 dernières semaines. Vous allez voir d'ailleurs du nouveau contenu sortir par rapport à ça, donc je vais faire beaucoup de, je dirais pas de vidéos d'apprentissage et tout, mais je veux au moins informer ma communauté. Je pense que c'est la plus grande opportunité depuis le boom d'Internet en 1997-98. Donc, j'en fais ma mission d'au moins vous partager qu'est-ce que j'ai eu comme bassin de connaissances depuis le temps. Vous allez voir bientôt sur YouTube, pas en audio, mais vraiment plus sur YouTube, des démonstrations de crypto. Je veux vous montrer une couple de trucs. Je veux essayer au moins de vous permettre de mettre un pied à l'eau, puis au moins de goûter à ça qui, je crois, est la plus grande opportunité depuis des siècles en tant qu'investissement. Donc, j'ai pas le choix de vous le partager. Aujourd'hui, avec Jake, on va parler de marketing, sur quoi on devrait focusser dans le marketing. Est-ce qu'on devrait focusser sur juste une plateforme, plusieurs plateformes? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi nos stratégies? Qu'est-ce que nous, on fait dans la vie en général? C'est facile de se perdre, c'est un grand monde le marketing, donc on se lance là-dedans, Jake et moi. Et d'ailleurs, j'ouvre un espèce de groupe privé, vous allez pouvoir avoir les épisodes d'avance. Nous, ça va nous aider à pouvoir couper les time frames, faire plus de clips sur Instagram et compagnie, parce que Eve et moi, bon, on manque un peu de temps pour s'en occuper. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est prendre 3 à 7 personnes qui sont fans du podcast, qui l'écoutent depuis le début, qui ont laissé des commentaires écrits sur Balados, qui sont abonnés sur Spotify, qui le partagent en story. Je veux des vrais tripeux du podcast. Je vais vous mettre dans un groupe privé ensemble et vous allez avoir accès au moins une semaine d'avance aux épisodes. Vous allez nous aider à choisir les bons clips qui vont servir de time frame, whatever, pour Instagram, pour Facebook. Donc, on se lance là-dedans sans plus attendre. Et si vous aimez le podcast, bien sûr, je me tue à vous le dire, mais 5 étoiles, un commentaire écrit sur l'application Balados, Spotify, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, let's go. De retour au micro avec Jake au studio créateur, super bel endroit si vous voulez enregistrer, peut-être même optimiser votre podcast, peut-être vous avez déjà tram audio que vous partagez avec votre audience. Ici, c'est incroyable, les bancs sont confortables, on est bien servi, c'est le fun, on aime la place. Jake, fait du bien de se revoir pour une espèce de saison 2 comeback, appelons-la comme ça. J'ai pris une petite pause pour me concentrer sur des projets personnels, notamment l'apprentissage de la crypto-monnaie, du Web 3.0, des trucs qui me passionnent. Mais là, c'est le temps là, que je fasse un petit retour. Puis évidemment, ben, ça va de soi qu'on le fasse ensemble. Aujourd'hui, on va parler de marketing. C'est toi qui as amené le sujet, donc c'est quoi, on parle de la nouvelle ère marketing, sur qu'est-ce qu'il faut focusser, c'est quoi le... On a fait un brief d'environ 22 secondes.
Ouais, là, ben ce que j'aimerais parler, c'est un peu toi, ta vision de ce que tu avais du marketing il y a une couple d'années. Okay. La vision que tu en as présentement, puis aussi démystifier un peu que souvent le monde va tomber dans les nouveaux trends, dans les ads Facebook, dans plein d'affaires, quand que la base n'est pas maîtrisée. Puis ça, j'aime ça dire que ben, tu sais, ton funnel, que ce soit, mettons, okay, download un e-book, puis whatever c'est quoi, faut que tu le testes organiquement avant, puis si ça fonctionne, puis tu es capable d'avoir des chiffres sur comment c'est rentable, ben là, tu peux mettre le gaz au fond qui est la pub payante, tout ça. Mais je pense que le monde se perd souvent dans les trucs. Puis j'aimerais savoir ton take sur comment tu voyais ça quand tu as commencé la première compagnie de suppléments avant Believe. Mm-hmm. Comment tu voyais ça, tout ça. Puis maintenant, c'est quoi les différences que... Comment tu vois ce monde-là d'acquisition client, de comment faire ça?
Sais-tu, je pense que il n'y a pas énormément de choses qui ont changé pour moi au niveau du marketing, mais une chose que je pourrais dire particulièrement que je sais qui a changé, c'est d'apprendre à maintenant saisir la bonne opportunité au lieu d'essayer de saisir toutes les opportunités en même temps au niveau marketing. Dans le sens que si tu vas sur YouTube puis tu essaies de suivre des cours de marketing ou tu écoutes des gourous marketing, ils vont dire d'absolument tout faire. Tu écoutes Gary Vaynerchuk, va dire d'absolument tout faire. T'as un brand personnel, il faut que tu poses 67 vidéos par mois, puis je veux dire, tu fais une pièce de contenu, puis ensuite, tu la distribues sur LinkedIn, puis sur TikTok, puis ça. Le gars, il y a probablement 12 personnes qui travaillent dans son équipe de médias personnels là, qui s'occupent de faire ça à sa place. Ça, pour nous, en tant qu'être humain normal, là, en tant qu'entrepreneur qui n'a pas une équipe média en dessous de nous, je parle juste pour un brand personnel, de focusser sur, premièrement, qu'est-ce qu'on est capable de faire, de bien faire, puis qu'est-ce qu'on maîtrise bien. Par exemple, nous, tu sais, moi, je suis toujours bien débrouillé à la caméra ou à l'audio, ça va super bien, mais je peux pas écrire un blog. Je vais faire des erreurs de français, j'écris pas super bien, c'est pas ma forte, donc je le fais pas. En affaires, j'ai appris maintenant à faire la même chose. Qu'est-ce qu'on maîtrise bien en tant qu'équipe chez Believe? Qu'est-ce qu'on comprend bien, nous? Est-ce qu'on a un expert d'ad Facebook à l'interne? Non, on n'en fait pas d'ad Facebook. On peut faire des campagnes de retargeting parce que c'est quelque chose qui est facile à faire, qu'on comprend bien, mais est-ce qu'on est capable de réellement optimiser une campagne Facebook de la bonne façon? Non. Donc, on ne le fait pas. Est-ce qu'on est bon en influencer marketing? On est excellent en influencer marketing. C'est un domaine que je comprends super bien. On a des personnes qui sont capables de bien m'aider au niveau de l'analytique, qui communiquent bien à l'interne, tant en français qu'en anglais. Je pense à Sarah et à Eve, notamment, qui communiquent avec l'entièreté de nos athlètes. On en a plus que 130 en ce moment, actifs. Il y en a qui sont out à chaque mois, il y en a qui sont in à chaque mois. Il y a de l'évaluation qui se passe là-dedans. Évidemment, je veux dire, il y a beaucoup d'analytique puis de décisions à prendre puis d'analyse du contenu puis de la fréquence de contenu, de la qualité, de qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, par exemple, en tant que brand, c'est quoi l'emphase ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on veut passer comme message par rapport à l'entreprise, par rapport aux nouveautés, par rapport aux produits actuels? De quelle façon on le passe? Quelle section de nos influenceurs on utilise? Est-ce qu'on utilise tout le monde ou juste quelques-uns d'entre eux qui tu sais, par exemple, la cuisine, on va pas demander à tout le monde de faire des recettes. On en a peut-être 4-5 sur 130 qui valent, tu sais, qui vont faire quelque chose qui vaut la peine d'être publié. Donc, on va utiliser eux, donc de fragmenter tout ça. C'est quelque chose qu'on comprend bien, donc c'est quelque chose qu'on met le gaz au fond là-dedans. Je pense que le plus gros problème de la plupart des entrepreneurs slash des entreprises en général, c'est le manque de connaissances par rapport au marketing, non seulement en général, mais aussi sur quelque chose de précis. Ça veut dire qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils font, donc ils essayent de tout faire, puis ultimement, il n'y a rien qui fonctionne parce qu'ils ne sont même pas capables d'analyser si quelque chose fonctionne ou pas parce qu'ils n'ont pas encore les connaissances pour savoir ça. C'est compliqué, le marketing. Puis si tu ne passes pas énormément de temps à l'apprendre, à l'étudier, bien, c'est comme toute chose dans la vie, tu ne seras pas bon. Ou c'est une autre chose. Si tu ne connais pas bien le marketing, c'est un peu comme si tu ne connais pas bien la comptabilité. Quand ton comptable va te parler de quelque chose, tu ne pourras pas comprendre ce qu'il t'explique. Ça veut dire que même si tu engages une firme externe en marketing, un, tu ne seras pas capable d'évaluer s'ils font du bon travail parce que tu n'es même pas capable toi-même d'évaluer ce qui est du bon marketing. Puis deux, tu ne seras pas capable de communiquer réellement tes besoins avec eux. Donc, tu vas toujours être tributaire des décisions qu'eux prennent ou qu'est-ce qu'eux décident de modeler avec ton brand, qui, pour moi, je trouve complètement ridicule. Donc, deux choses qui, je crois, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, est vraiment important, c'est de maîtriser une sphère du marketing où tu sais qui peut être bénéfique pour ton entreprise. Moi, je le sais que dans le fitness, les yeux sont sur Instagram. TikTok un peu, mais vraiment sur Instagram. C'est là que ça se passe. Est-ce que je suis un expert en ad Instagram? Non, mais je suis vraiment calé en influencers, puis je sais que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que toute mon attention et mon énergie pour gober de l'information puis du contenu, c'est là-dedans que je le mets. Parce que je le sais que les yeux de notre audience, des consommateurs de mon industrie, sont là-dessus. Si tu es en construction, il faut savoir les yeux des nouveaux acheteurs ou des personnes intéressées à louer, acheter, whatever, sont où? C'est où que ces personnes-là recherchent, puis c'est là qu'il faut que tu focuses ton marketing. C'est là qu'il faut que tu apprennes à faire du marketing. Je veux dire, faire du influencer marketing, si tu es un entrepreneur en construction, je ne suis pas sûr. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. Qui sait? Oui, ça pourrait être une sphère intéressante, mais ça va au-delà de juste Instagram, ça fonctionne, ou Facebook, ça fonctionne. C'est les yeux de mon audience sont où? Parfait, sont là. Maintenant, comment on fait pour optimiser cette plateforme-là? Puis il faut que je passe tout mon temps à apprendre comment ça fonctionne.
Ouais, c'est bon ça, parce que...
Puis, je t'arrête deux secondes, je passe zéro temps sur LinkedIn. Believe passe zéro temps sur LinkedIn. Est-ce que c'est une belle plateforme? Oui, il y en a qui font fortune là-dessus en marketing, mais ils ont le bon produit pour ça. Mon audience n'est pas sur LinkedIn.
100%.
Tu vois, c'est...
Ah, puis, il faut vraiment, comme tu dis, il faut se demander, ils sont où mes clients?
Ouais. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils consomment? À quoi ils pensent? Qu'est-ce qui les divertit? Quand ils arrivent sur la bolle, qu'est-ce qu'ils ouvrent sur leur téléphone? Qu'est-ce qu'ils font?
T'sais, c'est un peu comme... T'as-tu écouté Undercover Billionaire?
Non, mais je sais c'est quoi. Quand ils débarquent d'une ville par rapport avec 100 piastres ou 1000 piastres.
Ouais, exactement. Fait que, dans la première saison, Le gars, il essaie de faire des pièces au début, là, pour starter. Fait que là, il va dans une place où qu'il vend des balles pour chiens. Okay. Mais la première affaire qu'il fait, c'est je veux vendre des balles pour chiens, où est-ce que je vais aller? Dans des parcs à chiens. Donc, tu sais, juste, c'est simple, mais où est-ce qu'ils sont mes clients? Puis déjà là, à la base, il y a bien du monde qui prennent pas et qui se demandent pas ça. Où est-ce qu'ils sont mes clients? Comme tu dis, si tu vises les hommes de 18 à 25 ans, LinkedIn, c'est sûrement pas la bonne place à aller mettre des efforts marketing. Tu sais, puis vice-versa, il y a des, si tu vises des entrepreneurs, ben va sur LinkedIn. Puis, tu sais, une des choses que tu as dit qui est vraiment forte, puis je veux rajouter là-dessus, c'est que moi, c'est une erreur que j'ai fait, c'est de tout faire. Fait qu'on faisait des vlogs, on faisait le podcast, on faisait Instagram, on faisait Facebook, on faisait LinkedIn, on faisait le site web, on faisait le blog. Puis à un moment donné, c'est juste que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à un certain moment donné, ben c'est que ça a duré beaucoup trop longtemps avant que je commence à en tuer de ces trucs-là. Comme le vlog, c'était le fun. Les die-hard fans, ils aimaient ça. Puis il y a du monde, ça faisait qu'il y avait du monde qui venait. Sauf que l'affaire, c'est que first, ça me prenait entre 2 et 4 heures à filmer ça par semaine. Et ça me coûtait entre 200 et 400 piastres de gars de vidéo qui est tout le temps avec moi et ces affaires-là. Fait que là, à un moment donné, c'est de te dire, c'est quoi qui est rentable aussi? Tu sais, je l'ai essayé, je vois, c'est-tu vraiment rentable ça? C'est-tu vraiment ça qui fait la différence? Puis c'est pour ça qu'on l'a juste tué à un certain moment donné où on s'est dit, regarde, ça donne rien de mettre de temps là. Fait que c'est de voir présentement qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu mets tes efforts, puis qu'est-ce qui fonctionne déjà bien, puis juste comme tu dis, mettre plus d'efforts, puis devenir vraiment bon avec cette plateforme-là parce que. Tu sais, un coup que tu maîtrises, par exemple, que, exemple, Facebook, comme t'as une belle audience, ça rentre bien, t'as du trafic, puis t'es capable de vraiment rouler là-dessus pendant un an, ça va bien, mais là, après ça, tu peux, OK, on va aller sur une autre plateforme, puis on va optimiser l'autre plateforme aussi, ou tu peux en faire deux à la fois, mais c'est quand tu deviens trop éparpillé que là, c'est juste ton énergie puis ton attention, mais tu peux pas devenir bon dans tout. Tu peux pas devenir bon en YouTube, en podcast, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, tu sais, à un certain moment donné, il faut choisir. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dis-moi donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ferais, mettons, si tu serais, comme tu recommencerais de zéro, mettons, dans, soit, mettons, pour te donner deux exemples, soit du service ou soit du produit, mettons, au niveau marketing?
Avant de répondre à cette question-là, je vais revenir juste sur le dernier point que tu as dit. Tu sais, admettons, tu peux pas faire YouTube, Instagram, tout ça en même temps. Tu sais, une chose par rapport à ça, c'est que si ton entreprise est vraiment grosse et tu es capable d'avoir un expert dans chacun des départs, là, ça peut être intéressant. Okay? Mais tu sais, une petite entreprise qui a. Puis un entrepreneur qui veut apprendre en marketing, c'est une plateforme à la fois. Puis la meilleure plateforme pour commencer, un, c'est la place où tu es le plus habile, mais aussi l'endroit où ton audience est. Fait que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut retenir. Parce que oui, notre audience, elle est aussi sur YouTube, elle écoute aussi des vlogs. Par contre, la meilleure utilisation de notre temps en ce moment, c'est 100% de faire du influencer marketing. On est capable de bien l'analyser, on est capable de bien le contrôler aussi, on comprend bien. Donc, on n'a pas d'expert YouTube ni Facebook à l'interne. Fait que je veux dire, c'est plus ça mon point, dans le sens que tout fonctionne. C'est ça l'affaire en marketing, c'est que tout fonctionne, puis c'est ça qui est étourdissant. Tout fonctionne, mais tout ne fonctionne pas pour toi, nécessairement.
Ouais, ah, tu peux faire des lead ads, tu peux faire des webinaires, tu peux faire
un million d'affaires, man. Tu peux faire des vlogs, tu peux faire des blogs, tu peux. Il y a vraiment bien des. Puis ça va accélérer encore plus vite le changement avec le web 3.0 qui s'en vient. Puis sans aucun doute, je vais être le premier brand de supplément à avoir des NFTs, puis offrir une espèce de passeport électronique vers d'autres utilités. Mais encore là, c'est parce que moi, j'ai un intérêt personnel là-dessus. Fait que je suis capable de bien voir qu'est-ce qui s'en vient. Si jamais. Tu sais, qu'il y a une entreprise, qu'il n'y a personne qui est passionné par le marketing à l'interne. Un, je pense que c'est très dangereux, pas ça. Mais deux, ce serait important là, d'entrer quelqu'un à l'interne qui est vraiment gobe du marketing, aime le marketing pour vrai, que d'en faire une passion. Quelqu'un qui, la fin de semaine ou en auto, écoute des podcasts par rapport à ça par simple intérêt. C'est pas parce que quelqu'un a un bac en marketing qui nécessairement trippe sur le marketing.
Ouais. Ça, c'est prendre en considération qu'il y a trois grandes sphères à l'intérieur d'une entreprise, puis il en découle plein d'affaires. Mais tu as le marketing, tu as la vente, tes opérations. T'sais, tu t'en sauves pas. Ça veut dire que si tu es juste bon dans tes opérations, tu n'as pas le choix d'aller te former en marketing puis en vente. Parce que même si tu as des produits, puis tu sais, ta vente, là, mais le marketing, c'est de la vente en ligne. Tu sais, c'est de la vente que quand tu vas vendre une idée à quelqu'un, quand tu vas vendre un concept, ça reste que tous les concepts de la vente. Et dans tes opérations, tu vas vendre l'idée à tes clients de faire ce que tu leur dis, de prendre les suppléments que tu dis, de prendre le supplément de façon optimale, tu sais. Fait que ça revient tout le temps que ces trois sphères-là, t'as pas le choix d'augmenter tes skills. Si t'es à zéro, faut minimum soit à 7 sur 10 dans toutes les sphères, parce que sinon, il y a de quoi qui va péter. Puis le point que tu dis d'engager quelqu'un, si t'as aucune idée, comme j'ai passé des entrevues pour du monde de marketing à l'interne pour en engager un depuis 4 mois, puis ça va vraiment, vraiment bien, je suis vraiment content. Mais quand je passais des entrevues, quand je posais des questions, je savais exactement ce que je voulais comme feedback, qu'est-ce qu'il me disait, puis le salaire qu'il demandait, puis tout ça, des fois, ça fitait pas dans ma tête de me dire « Ah non, man, là, j'ai vraiment basic ce que tu sais. » Puis fait que, même chose pour la vente, si tu veux engager quelqu'un pour faire la vente, mais que tu as zéro connaissance en vente, ben là, comment tu sais que la personne est bonne ou pas? Même affaire pour, tu sais, nous autres, un trainer. Quelqu'un qui a un gym qui engage un trainer que lui-même ne sait pas c'est quoi un bon entraîneur, comment qui sait que la personne, c'est la bonne personne pour être là, tu sais?
100%. 100%. Mais tu sais, c'est important de te renseigner. Ah oui. Pas juste te renseigner, mais vraiment, même si t'aimes pas le marketing, de te faire une éducation de base. Même chose en comptabilité, même chose.
Et moi, j'aime pas la vente. Ça me rend inconfortable. J'en fais parce que Chris fait partie de la game, là. Mais l'affaire, c'est que je lis des livres, j'écoute des vidéos, puis des fois, je suis comme, que ça me tente pas. Mais ça me tente pas autant.
Il y a des choses qui nous viennent plus naturellement.
C'est ça, exactement. Mais c'est important que j'ai quand même des bases dans ça, puis ça m'a vraiment aidé d'avoir des bases dans tout le reste aussi. Tu sais.
Puis c'est ça, en marketing, il faut aussi. Faut que tu aies les oreilles ouvertes comme Dumbo. Il faut vraiment que tu aies les yeux partout parce qu'une autre industrie peut grandement inspirer la tienne.
100%.
T'sais, on a fait une promo, nous autres, qu'on avait des scratch and win, des pots. Là, on était la première compagnie de suppléments à faire ça. Je veux dire, je comprends pas que ça n'a pas été fait avant, mais je me suis inspiré des boîtes de céréales dans le temps.
Ah oui.
On peut s'inspirer des différentes industries pour ramener le concept à la nôtre. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu aies les yeux ouverts. T'sais, souvent, je check les panneaux sur l'autoroute. J'aime ça des fois. Puis ça me vient naturellement de faire ça, c'est une bonne pub. Ah, ça, c'était pas bon. Puis des fois, je dis à ma blonde, ça, c'est vraiment une bonne pub. Puis comme je m'en calisse. Mais tu sais, comme ça me vient naturellement, j'écoute les publicités, mettons, à la télévision. Quand j'écoute quelque chose, le monde ne les écoute pas. Moi, je les écoute parce que des fois, je me dis, j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Je trouve ça intéressant de la façon qu'ils ont placé ce mot-là ou de la façon, tu sais, de la grosseur, la couleur, ces choses. Chaque chose, chaque détail. Mais encore là, c'est parce que j'en suis passionné. Si quelqu'un n'en est pas passionné, c'est vraiment important quand même d'avoir des notions de base pour être en mesure de bien communiquer soit avec une agence ou éventuellement d'engager quelqu'un à l'interne. Ta question, c'était, excuse-moi, si on recommence à zéro.
Si tu recommences à zéro, t'as un service, admettons, que tu vends ou t'as un produit.
T'en reviens au même, c'est qui mon client, c'est à quoi il pense, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il aime sur Netflix, tu bâtis du contenu autour de ça sur les plateformes qu'il utilise pour vrai dans sa vie. Puis éventuellement, le monde va te trouver si tu leur donnes assez de valeur. Tu sais, je veux dire, la création de valeur, c'est tellement. Tu sais, toi, t'es un exemple pur et dur en passant. Là, c'est toi et moi, les lives Facebook dans le temps, là, je veux dire, c'était que ça. Là, c'était de la création de valeur pour une communauté. À un moment donné, là, si tu donnes de la valeur à quelqu'un, son défaut naturel, ça va être d'acheter ton produit. Ouais. Par défaut, c'est ce qu'il va faire. Peu importe le prix, peu importe s'il doit se déplacer 10 minutes de plus pour aller à un autre magasin parce que ce magasin-là ne l'a pas, il va aller le chercher. Et si mon voisin, là, il vend des tires, là, puis je suis en train de réparer la galerie chez nous, puis il vient m'aider à réparer la galerie. Je ne vais pas aller sur pneuarabais.ca pour acheter mes tires parce qu'ils sont 50 pièces de moins. Je vais appeler mon voisin parce qu'il m'a aidé à réparer ma galerie puis je vais payer 50 de plus. C'est la même chose sur Internet, at scale. Puis toi et moi, avec les lives dans le temps, ça a été un bon exemple de ça. Même chose avec le podcast. Le monde qui m'écrit des paragraphes ça de long parce qu'ils se reconnaissent dans mes histoires, que ce soit dans d'anxiété ou tu sais, tout ce que je raconte, peu importe, dans chacun des épisodes. Ces personnes-là, là, essayez pas de leur vendre un autre brand de supplément pour 20$ de rabais. C'est la même chose dans tous les domaines. Que ce soit un service ou un produit, man, c'est basic stuff 101. Il n'y a rien qui change.
Je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent que marketing égale confiance. Le but du marketing, c'est de créer assez de confiance avec les gens qui vont vouloir acheter tes trucs, comme tu dis. Fait que, tu sais, de changer un peu du monde, ils sont comme, ah, j'aime pas le marketing. OK, mais est-ce que t'aimes ça, bâtir des relations avec le monde, puis que le monde, d'avoir confiance en eux, puis eux ont confiance en toi? Oui, c'est ça du marketing. C'est juste une question de comment je peux créer un maximum de confiance avec eux, un maximum de connexion, un maximum de valeur pour eux, pour les aider. Puis, ils vont, tu sais, quand le monde, ils te connaissent, ils te respectent, puis ils aiment ce que tu fais, ils vont acheter qu'est-ce que tu dis, parce qu'ils vont être contents de first t'encourager. Puis quand ils vont penser, tu sais, mettons, quelqu'un qui écoute tes trucs, il prend pas de supplément, mais aussitôt qu'il va se dire, ah, faudrait que je prenne des suppléments, à qui tu penses qu'il va penser? Il va penser à Belly.
Faut que ça devienne un réflexe.
C'est ça, mais pourquoi? Parce qu'il a confiance en toi. Parce que l'autre compagnie, il sait pas vraiment c'est qui est en arrière de ça. Il sait pas trop si c'est bon, si c'est pas bon. Il y en a plein. Mais regarde, elle, je connais, j'ai confiance, une compagnie québécoise. Je sais c'est qui est en arrière de ça. Puis c'est pas pour rien qu'autant de compagnies ont des ambassadeurs. Tu sais, exemple, dans le temps, Subway avec Jared. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ouais, ouais.
Mais savais-tu qu'ils ont perdu comme 5 millions de chiffre d'affaires l'année qu'il est parti? C'est fou pareil, là. Tu sais que juste à cause que le personnage qui était en avant de la marque, il était plus là, puis il s'est fait arrêter. Fait que c'est sûr, ouais.
C'est pas... c'est parti sans couilles, son histoire.
Mais il y a quand même eu une méchante drop dans leur... c'était 5 ou 50 000, 50 millions, je me souviens pas. Là. C'est un gros chiffre qu'ils ont perdu. Il y a des stats sur Google, si vous voulez aller voir. Mais tu sais, c'est de là le pourquoi que tu sais, Hyundai, il y a, je me souviens plus du nom, tu sais, Maxi, Martin Matt, tu sais, on le voit même au Québec, c'est des influenceurs, en fait, comme tu fais avec ça, puis plus que les gens savent qu'ils font affaire avec un humain, mais plus ça bâtit la confiance. Tu sais, le monde ne veut plus faire affaire avec une marque que tu sais pas c'est qui en arrière.
Non, 100%.
Puis, des exemples, c'est qui le président de Ford? Tu sais pas, c'est qui le président de Tesla?
J'ai deux Audi, j'ai aucune idée c'est qui le président d'Audi.
Ouais, c'est ça. Mais Tesla, tu sais c'est qui, par exemple? C'est Elon Musk. Ouais. Ben, pas le président, mais le fondateur.
T'sais. Ouais, puis si je pense à véhicule électrique, je pense à Tesla en premier.
Exact. Mais l'affaire, si tu regardes l'évaluation de Tesla comparé à Ford, Tesla est 1000 fois plus évalué. Ben, pas 1000 fois, mais c'est beaucoup plus évalué que Ford. Même si Ford, ça fait des années qu'ils sont là. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a le personnage attirant qui est là, qui fait que le monde a vraiment confiance, qui investit dans cette personne-là, puis tout ça. Pis,
ouais, 100%.
Après ça, la personne, mais c'est la mission ultime, c'est la vision qui est le why qui est véhiculé. Fait que, je m'écarte un peu, là, mais c'est juste de comprendre que le marketing, c'est une game de confiance. That's it.
Ouais. Puis tu sais, il faut pas que tu le traites, même le mot game, j'aime pas ça dans le sens que je sais que c'est pas mal utilisé, mais tu sais, de vouloir créer de la confiance avec ton audience, il faut que ça vienne naturel aussi. Il y a certaines choses en business que si ça vient pas naturel,
les gens ça va
péter un moment donné, là, où tu vas traîner de la patte. Il y a des choses qu'il faut que ça vienne naturel en affaires, sinon t'es peut-être pas à ta place. Puis une chose par rapport au influencer marketing, là, c'est que tu sais, tu parlais de découvrir le personnage derrière Tesla, par exemple. Puis on parlait de la création de valeur. Si tu penses à un gars comme Julien Geoffrion, par exemple, il a un excellent exemple de... Tu sais, qu'est-ce qu'il fait avec ses Q&A à chaque semaine? Puis il répond à ses DM, puis il répond à tout le monde, puis il répond à des questions, mon gars, dans une journée. Sauf que les gens, quand ils pensent achat de suppléments souvent, puis qu'ils suivent Geoffrion à chaque semaine, ils vont consommer ce que Geoffrion utilise. Moi, en tant que brand... Tu sais, moi, Geoffrion, on est des chums, là, mais je veux dire, en tant que brand, de m'associer avec des gars comme lui, c'est comme si je reprenais tout ce que je faisais dans les lives, at scale, puis je le multiplie. Parce que certains vont dire, le influencer marketing, c'est n'importe quoi. J'ai déjà envoyé 10 t-shirts à 10 personnes différentes. Ça n'a pas converti. Attends une minute, là, OK? L'influencer marketing, ça va plus loin que juste envoyer des produits à un influenceur. Il faut que tu t'assures que cette personne-là est capable de véhiculer un message qui fait du sens, que cette personne-là s'assure lui aussi de donner de la valeur de façon constante à son audience pour que son audience ait confiance en lui. Fait que le jour où il promouvoit quelque chose en quoi lui-même a confiance, son message va tellement être réel que son audience va embarquer. C'est un jeu de confiance, comme tu disais. Mais il faut identifier des influenceurs qui fitent avec notre brand, qui s'assurent de faire de la création de valeur dans leur propre écosystème, puis que nous, on se joint à leur écosystème parce qu'on aime cette personne-là. Geoffrion, j'en ai d'autres exemples, des coachs comme ça. Les personnes parmi les 130 quelques athlètes qu'on a, c'est pas nécessaire, ceux qui convertissent le mieux ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus d'abonnés. Souvent, ça va être des coachs qui parlent de nutrition, qui parlent de fitness, qui ont une base de données de clients, des personnes qui font de la création de valeur eux-mêmes de leur côté, puis qui ensuite, par la bande, sont capables de vendre des suppléments, puis eux-mêmes d'y gagner quelque chose parce qu'ils, un, nous font confiance, puis leur audience leur font confiance. Donc, c'est la chaîne de confiance qui fait en sorte que le influencer marketing fonctionne. Si tu envoies des produits à quelqu'un, mais que son audience, elle s'en fout un peu, puis elle l'écoute parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle, ça va pas convertir. Tu brises la chaîne de confiance.
Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a pas de confiance, c'est que tu brises la confiance. Puis ça, c'est encore pire.
C'est, non, mais ça, c'est débile parce que c'est un lose-lose des deux côtés. Dans le sens que, admettons que l'influenceur publie, tu sais, je l'ai vu, là. Hostie, man, ça m'écœurait. J'ai vu un moment donné quelqu'un faire une promo pour Shell. Okay? J'ai rien contre Shell, là. Je veux dire, c'est rien contre la compagnie, n'importe quelle compagnie de gaz, admettons, ça aurait fait la même chose. L'influenceur fait une pub pour Shell. On le sait que Shell t'a payé pour faire ça. C'est assez clair que t'es pas un passionné de gaz puis t'es clairement pas un motorhead, admettons. Là, peut-être que tu as un garage loadé de chars puis que t'es un car influencer puis tu vlogs puis tu fais des jobs dans ton garage, je peux commencer à y croire. Mm. Ça se peut que j'y croie. OK? Mais là, c'est genre un beauty influencer. Là. Fille qui fait du maquillage, qui fait une pub pour Shell. Okay? T'es-tu conscient à quel point que la chaîne de confiance est brisée de tous les sens, dans le sens que un Shell vont se dire Chris, l'influencer marketing, ça fonctionne pas, on offre des cartes cadeaux. Shell via elle. OK? Puis après ça, elle share ça avec son audience qui la suit pour du maquillage ou de la beauté. Tu leur garoches une pub de Shell dans... Ça veut dire que ton audience fait OK, t'es un panneau publicitaire.
Ouais, toi, c'est
là.
Ça.
Là, est-ce qu'on est en train de brimer la confiance pour le prochain post que tu vas faire, dans le sens que si t'es capable de prendre un sponsored post pour Shell, ça veut-tu dire que tu vas prendre un sponsored post pour L'Oréal parce que c'est eux qui ont payé le plus cher la prochaine fois? Là, tu commences à briser. En tant qu'influenceur, tu commences à briser la chaîne de confiance que tu as avec ton audience. Puis ça, c'est vraiment un concept intéressant. Puis encore là, c'est une chose invisible, intangible, auquel le monde ne réfléchisse pas, mais c'est vraiment important. Puis là, c'est comme si je parlais au nom des influenceurs, comme faites attention. Mais en tant que brand, si tu n'es pas capable de reconnaître ce pattern-là chez les influenceurs, ça va être difficile pour toi de réussir en influencer marketing. Donc, ça revient au fait de, est-ce que de la pub Facebook, Instagram, influencer marketing, qu'est-ce qui fonctionne? Tout fonctionne si tu le comprends bien et si ça fit avec ton audience.
100%.
Moi, c'est juste que je parle d'influencer marketing parce que c'est ça que je connais le mieux. Tu peux me mettre sur un stage, tu peux me poser des questions pendant une heure, je vais bien m'en sortir. Un moment donné, en ad Facebook, tu vas finir par me perdre. 10-15 minutes down the road, là, comme je suis capable de faire mes propres campagnes, mais c'est sûr que tu vas me perdre un moment donné. Fait que...
Je vais revenir à Julien parce que... Geoffrion, parce que ça roule bien, ces affaires.
Mm-hmm.
Clairement. Et... Tu sais, si on regarde, c'est quoi son tunnel de vente Facebook? C'est quoi ses e-books? C'est quoi son groupe Facebook?
Fuck off.
C'est quoi son YouTube? C'est quoi son podcast? Rien. Ce qu'il fait, c'est que des Q&A
Instagram.
Sur Instagram. Il en manque pas un. Il est tout le temps...
Il poste à tous les jours.
Il est tout le temps là-dessus. Puis c'est une seule chose. Puis il y a un seul tunnel de vente. C'est quoi? Si tu poses tes questions, je te réponds. Si j'ai bâti assez de valeur, tu vas m'écrire pour me savoir comment ça fonctionne. Puis il fait que ça.
Puis il partage aussi, bon, ses progrès, sa vulnérabilité, ses fails, ses succès, ses choses. Tu connais sa blonde via son Instagram, ses choses. Tu t'attaches à lui. Donc, il y a un sentiment de confiance. Cette chaîne de confiance-là devient de plus en plus forte. Puis c'est là que les conversions se font plus facilement.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais plus les gens ont du succès, plus qu'il y a un seul tunnel de vente.
Tout le temps.
T'sais? Fait qu'à à place d'essayer d'en faire plein, puis erreur que j'ai faite à 100%, puis plus ça va, plus qu'on a un seul tunnel de vente, parce que je me rends vraiment compte de ça. Mais si présentement tu es éparpillé partout, garde juste ce qui marche, qui fonctionne le mieux, puis va juste all-in là-dedans, tout va aller mieux. Puis aussi, c'est que tu vas regagner ton énergie mentale à. Tu sais, quand tu. Tu sais, c'est comme l'analogie, tu as une hose que l'eau elle coule, puis si tu mets à percer des trous partout, ben au bout de la hose, il y a moins d'eau qui va sortir. Ça va sortir partout. Fait que c'est un peu ça ton énergie aussi, là. Tu sais, c'est de focusser ton énergie à un seul endroit et d'optimiser. Parce que si ton. Tu sais, nous autres, on a un funnel que c'est. Tu downloads un e-book, après ça, tu tombes sur une page où est-ce que je te propose mon académie à une pièce pour les 4 premières semaines. Puis après ça, ben, je t'envoie sur « Tu veux-tu un appel informatif pour en savoir plus si on peut t'aider? » Mais ce funnel-là, ben, c'est lui qui rapporte le trois quarts des ventes de ce qu'on fait. Puis il y a d'autres petits funnels qui roulaient que ça change rien, ça marche pas, c'est pas assez efficace. Fait qu'à la place, ben regarde, on va tout mettre le budget là-dedans dans ce funnel-là. Et je vais mettre aussi, je vais m'assurer de toutes mes stats que j'ai à travers ces funnels-là. Combien de personnes qui cliquent? C'est quoi mon pourcentage de personnes qui vont sur la deuxième page? C'est quoi mon pourcentage de personnes qui vont aller sur l'appel Zoom pour des informations? C'est quoi le pourcentage de monde qui vont closer après ça? Est-ce que mes leads sont à bonne place? Puis ce qu'on s'est rendu compte quand je me suis mis à focusser sur ce funnel-là, c'est que là, PA qui fait les appels, il me dit, ben le monde ne sont pas qualifiés. Là. Le monde, des fois, c'est un funnel pour les entraîneurs. Puis il y a du monde qui s'entraîne même pas, qui veulent des informations sur l'entraînement. Fait que là, OK, il y a de quoi dans mon offre de service, dans mon copywriting, dans, dans mon questionnaire, parce que c'est un application form que les gens vont remplir un questionnaire avant de prendre rendez-vous, il y a de quoi qui n'est pas clair. Là. Mm-hmm. Fait que là, je peux l'optimiser, je peux passer du temps à vraiment optimiser ça, puis c'est ça la force.
Parce que tu focuses juste là-dessus. Ou, tu sais, quand on dit juste là-dessus, c'est pas juste là-dessus, mais 80% de ton énergie, puis ça fait du sens, parce que quand tu penses à ça, quelqu'un qui se spread vraiment large, puis tu essaies plein d'affaires. C'est vraiment tough d'analyser qu'est-ce qui fonctionne bien, parce que tu peux pas juste faire « OK, c'est quoi mon ROI là-dessus? Combien j'ai mis? Combien ça me revient? » Attends une minute, là, faut que tu rentres plus deep que ça. Là.
Exact.
Il y a peut-être une raison pourquoi ton ROI est super haut pendant une période, où tu sais, il y a plein de choses à analyser. Nous autres, on a 130 athlètes, OK? Les filles font des calls à chaque semaine pour analyser qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on fait des calls mensuels pour checker. Après ça, tu checkes les rapports de vente. C'est quoi le contenu? Combien de fois ils ont posté? Tabarouette, t'en as 130 là, à checker. And growing qui continue. Penses-tu vraiment qu'on a le temps de gérer des pubs Facebook sur le site? Mm. Pas avec l'équipe qu'on a actuellement.
Mm-hmm.
Pas avec le budget qu'on a actuellement. Faut-tu spread ton budget d'advertising pour faire des tests sur Facebook en passant?
Ah oui.
Ça finit plus. Tu sais, comme tu parles de funnel, admettons, mais toi, tu comprends super bien les funnels d'escalier. Je conseille pas à personne de se lancer là-dedans. Là. Ah. De faire un entry funnel, puis après c'est un step 2, puis mon step 3, puis après... Mais c'est quelque chose que tu comprends bien, que tu maîtrises bien, que les gens dans ton mastermind sûrement vont commencer à mettre en place, puis ça fait du sens, mais t'as raison, man, c'est tellement impossible d'analyser tout en même temps, de se spread, puis ensuite de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Puis...
Tu sais, des fois, comme mettons dans le mastermind, une couple de semaines, il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, mais tu sais, combien de fois vous postez par semaine? » Là, je dis, tu peux pas te fier à nous autres. Là. J'ai un gars de marketing full-time, j'ai un gars de vidéo full-time, on a une agence full-time qui roule les ads puis qui nous donne des stats. C'est comme, oui, on peut poster deux fois par jour. J'ai un gars qui s'occupe que de ça.
Mm-hmm,
tu sais, que de gérer ça. Fait que l'affaire, c'est que... Puis, tu sais, la création de contenu, avant, comment qu'on allait chercher nos clients, c'était juste du organique, création de contenu, booster des posts ici et là pour se faire voir, puis that's it, faire des lives, faire tout ça. Puis à un certain moment donné, quand que ça, je le maîtrisais bien tout ça, puis ça fait juste une couple de mois que j'ai engagé quelqu'un de marketing, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais bref, ça s'est fait là. Mais là, cette personne-là peut prendre ça. Fait que là, moi, je peux après ça me retirer de dire, OK, quand que lui, il maîtrise bien ça, ce que je faisais avant, ben puis mieux que moi, en fait, ben là, je peux me mettre sur d'autres choses. Puis là, comme, OK, mais là, il sait comment ça marche, ClickFunnels. Puis, tu sais, là, ça build up. Puis là, tu peux commencer à travailler sur d'autres stratégies puis d'autres médiums parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'un des funnels, tu sais, ou de deux funnels parce que c'est sa job full-time à faire ça, tu sais. Fait que, je pense que c'est important de ne pas se perdre dans tous ces trucs-là puis de revenir à la base, une question de confiance, une seule chose. Puis si tu la fais bien, cette chose-là, ben, les clients vont venir à toi. Tu sais, si les gens pensent que tu es la bonne personne pour les aider, quand ils ont besoin d'aide, ils vont venir te voir. Puis des fois, ils ont besoin peut-être d'un petit call to action, d'un petit essai aussi. Tu sais, vous avez des samples, Believe, dans les magasins, j'imagine, que quelqu'un veut goûter à tel saveur, il peut goûter. Ben nous autres, c'est la même chose. On a des défis, on a justement mon académie, mais le premier mois est à 1$. C'est même pas du recurring après que t'embarques, tu te fais biler. C'est, tu laisses à 1$, puis après ça, je t'envoie des emails, je te dis quoi faire, on t'appelle, si t'es-tu satisfait, whatever. Mais il faut que le monde essaie des fois pour voir si t'as la seule affaire que tu vends, puis je vais parler du training parce que c'est ce que je connais.
Ben oui, ben oui.
Tu vends les suivis de 12 mois à 3-4 000 piastres, c'est sûr que la personne au téléphone, peut-être qu'elle va dire « Ouais, mais c'est beaucoup. » Tu sais, puis t'as beau être le meilleur vendeur, tu sais, s'ils n'ont pas essayé, puis ils n'ont pas goûté, puis ils ne savent pas c'est quoi le service, ben ils vont pas te faire confiance. Puis c'est dans... Je sais pas si tu connais Alex Hormozy, c'est un gars qui... En tout cas, il fait beaucoup de vidéos YouTube ces temps-ci. Puis dans son livre, il dit « Tu sais, une offre irrésistible, c'est 100 fois plus fort qu'un argument convaincant. » Fait que tu sais, ton offre, là,
c'est bon,
ça. C'est que qu'est-ce que t'offres comme valeur aux gens dans ton service, si c'est bon, s'ils ont goûté, si vraiment c'est comme un wow factor, ben tu sais, t'as même pas besoin d'être une beast en vente. Là.
Ouais.
Si t'es une beast en vente, c'est juste un plus.
T'sais. C'est juste un plus, exactement.
C'est vraiment de voir, c'est un échange de valeur. Puis plus tu règles des gros problèmes chez les gens, puis que tu règles des problèmes chez beaucoup de gens, plus tu vas être payé. Tout simplement. T'sais, un médecin spécialiste, t'sais, le meilleur spécialiste du genou au Québec, il est plus payé qu'un médecin généraliste. Pourquoi? Mais parce qu'il est expert dans une seule chose, sa valeur perçue est énorme, parce qu'il est vraiment bon dans une chose, son offre de service est exactement ce que quelqu'un a besoin.
T'sais. Exact. Je trouve ça intéressant. Je veux qu'on aille ailleurs par rapport à ça, mais avant, je veux prendre une pause. Si vous écoutez sur Balados, on laisse 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour la distribution du contenu. Puis en même temps, c'est le fun d'avoir 5 étoiles. Un commentaire écrit, ça prend 17 secondes de votre temps. Vous scrollez down jusqu'au premier épisode. En bas, vous allez voir des étoiles. Vous en mettez 5, vous mettez un commentaire écrit. Si vous écoutez sur Spotify, on s'abonne. Et je veux faire quelque chose aussi. Nous, en interne, pour ce qui est de la promotion du podcast, découper les time frames et tout pour les vidéos, on veut avoir un petit groupe, peut-être 3, 5, voire 7 personnes maximum qui auraient les épisodes en avance puis qui nous permettraient de savoir quels sont les timeframes les plus intéressants. Moi, ça me libérerait du temps. Même chose pour Eve maintenant qui va gérer le podcast. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie de cette espèce de private group là, qui a les épisodes d'avance qui nous aident à choisir les bons timeframes, vous allez avoir les épisodes au moins une semaine en avance. Écrivez-moi sur Instagram à Julien Arun. Puis on va voir si vous embarquez ou pas.
C'est une bonne idée,
ça. Ouais, mais ça va nous sauver du temps. Puis en même temps, je veux pas nécessairement qu'Eve prenne du temps pour écouter tout l'épisode. J'aime mieux qu'elle check les timeframes. Fait que, anyway, si ça vous intéresse, guys, j'en prends entre 3 et 7. Puis il faut absolument que vous êtes un avide fan du podcast. Je serais bien surpris que vous faites partie du groupe si vous avez jamais laissé de commentaires écrits. Et ou, surtout après 60 épisodes. Et ou, si vous n'êtes pas abonné sur Spotify. Jake, je voulais qu'on parle, parce que tantôt, tu parlais de comme un de tes étudiants dans Mastermind qui disait... Et combien de fois vous créez du contenu par semaine? Je veux juste mettre une emphase sur la qualité du contenu qui est créé, puis un peu moins sur créer, plus que créer de la qualité, puis ensuite focusser sur distribuer ce contenu-là, dans le sens que tu es mieux de produire une pièce de contenu de qualité par semaine, puis ensuite prendre les 6 autres jours de la semaine pour la distribuer le plus possible, de l'envoyer, de créer des relations avec d'autres influenceurs ou d'autres blogueurs ou whatever, d'autres sites web qui peuvent partager ton contenu, apprendre à le distribuer sur les bonnes plateformes. Là, ça peut être intéressant de faire du ad Facebook ou du ad Instagram sur du contenu de qualité que tu as pris du temps à créer. Là, ça peut être intéressant de connaître les ads. Fait que de faire attention, de trouver le bon ratio entre créer, mais aussi créer de la qualité, plus que focusser à créer, un peu à la Gary Vaynerchuk, là, qui rend tout le monde fou à faire du contenu 75 pièces par jour. 75 pièces de merde, ça va rien t'amener.
Ah, exact. Tu sais, l'affaire, c'est que t'es vraiment mieux, puis c'est comme dans l'entraînement. Si tu poses 6 fois par semaine pendant 3 semaines, ça va rien donner. Puis après ça, que t'arrêtes. Mettons, ça va rien donner. T'es bien mieux de poster une bonne fois par semaine, faire un bon épisode de podcast par semaine et de faire ça sur le long terme. C'est tout le temps. Puis, tu sais, je m'en rends compte avec mon brand personnel. J'ai commencé juste à le mardi matin, j'ai fait un petit Canva avec une petite quote, des trucs de même. Puis là, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien. Le monde aimait ça, c'était simple, ça allait donner des tips, ça les motivait. Fait que là, j'ai juste créé, mettons, pendant une demi-journée, j'ai juste fait comme, OK, ben pendant 6 mois, je vais juste créer tous mes petits canevas, mes petites idées, mes affaires-là. Puis c'était juste ça pendant un bout. Puis après ça, là, j'ai rajouté des trucs. Mais j'ai créé un post pour, pendant 6 mois pour les mardis matins, des bons posts, ben, que je juge qui sont des bons posts, que je sais que ça va parler à mon avatar client, je sais que ça va parler à la personne que je veux parler. Puis après ça, là, je peux rajouter une autre pièce de contenu. Parce que je l'ai déjà fait d'avance pendant 6 mois. T'sais. Fait que c'est sûr que si tu essaies de faire ça comme non-stop dans ta semaine, à tous les jours de faire du contenu, tu vas te perdre, il faut que tu batch process tes trucs. T'sais, un peu, je me souviens de. Je raconte souvent cette histoire-là. Ben, pas souvent. Mais quand on avait monté le site web ensemble, où est-ce qu'on avait comme 200 quelques vidéos à faire, puis on avait pris, je pense, 2-3 semaines de vacances ensemble. Bon, c'est pas des semaines de vacances, mais les deux, on faisait pas ce qu'on faisait normalement, puis on a juste filmé. Pendant ce temps-là, puis on a monté le site au complet, dans le fond. Tout était fait après ça. T'sais, on a batch process. Fait que, tu sais, un peu comme aujourd'hui, on va filmer plusieurs épisodes, mais on vient, on optimise notre temps. Puis c'est la même affaire pour le quand tu crées du contenu, c'est tout batché. Une demi-journée, je fais mon pause du lundi qui est sur la motivation, l'entraînement, l'instruction. Voilà, vu ton sujet. Puis tu fais tout ça d'avance.
Puis surtout en création de contenu, quand tu commences à faire quelque chose, c'est tellement facile de rester dedans.
Ah oui.
Quand on sait, tu sais, admettons, moi, je vais commencer à streamer, mais faire des enregistrements sur l'ordi pour le web 3.0, la crypto, ces choses-là, c'est vraiment, ça me passionne. Puis quand j'ouvre la caméra, j'ouvre mon mic, je fais mon setting. Quand je suis dedans, c'est le temps. Là. Tu sais, comme je viens au studio de podcast ici, là, au studio créateur, je suis là, je suis dedans, ça me tente. Tant qu'être dedans, je veux dire, j'en fais un peu plus. Plus que je voudrais pas venir au studio à tous les jours enregistrer quelque chose. On dit, ça casse mon beat tout le temps. Quand t'es là, comme tu dis, batch process, c'est vraiment hyper, hyper puissant.
C'est pour revenir un peu au marketing, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que peu importe les stratégies qui vont s'en venir les prochaines années, que ce soit du webinaire, d'avoir un groupe Facebook public, de faire des ads, de faire du TikTok, whatever, il faut vraiment revenir à la base de la base. Pourquoi je l'ai dit de même, revenir à la base.
Ça c'est le style de base.
Ouais, parce que je veux vraiment que vous compreniez de revenir à la base, qu'on parle avec des humains. Les humains qui ont une psychologie, tu sais, qu'on a une psychologie d'acheteur, on est sceptique. Tu sais, il y a plein de traits des humains que ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours l'être. Puis si tu regardes des ads dans des journaux, là, 30 ans, il y a du copywriting, il y a des mots qui sont choisis, il y a des couleurs qui sont choisies. Ben, c'est pas des couleurs autant longtemps, là, mais il y a des trucs qui sont choisis qui sont encore là présentement. T'sais. Puis j'aime bien Dan Kennedy, qui est un gars de marketing qui doit avoir comme 70 ou 80 ans. Puis même Russell Brunson, il n'arrête pas de parler de lui, puis à quel point que ses concepts, c'est vrai encore. Tout ce qui s'expliquait sur la psychologie de l'acheteur, de comment tu... Tu sais, qu'est-ce que tu cherches quand que tu vois un ad, comment tu réagis à ça, les caractères, les lettres, les couleurs, tu sais, c'est toutes des affaires que... Tu sais, les couleurs, je veux dire, quand tu vois du bleu, c'est inconscient, mais tu vois différemment que quand tu vois du rouge. Puis ça veut tout dire des choses. Fait que là, quand que tu utilises tes... Tu fais une publication, mais il faut jouer avec ces trucs-là. Les mots, tu sais, il n'y a rien de plus fort que les mots, que ce soit en vidéo, que ce soit le ton de voix que je dis « Allô, aujourd'hui, on vous allez faire ce que je vous dis. » Ou si je suis comme « Hey, ça va être malade! » Mais ça va complètement... changer comment ça va 100%. Être perçu. Puis c'est juste de comment tu t'interagis avec les gens. T'sais, si tu regardes, j'ai fait un cours l'autre jour, c'était bon, qu'ils évaluaient, mettons, les grands orateurs, puis ils mettaient sur pause, puis ils disaient, regarde, voici ce qu'il vient de faire. Puis tu sais, un pitch down, c'est quand tu dis pas un ordre, mais tu veux faire quelque chose à quelqu'un. Genre. Fait qu'exemple, tu fais, mettons, tu fais une vente, mettons, mais tu vas dire, fait qu'on y va avec ça. Fait que je pitch down ou on y va avec ça. Là, ça, c'est plus interrogatoire ou c'est plus comme moins strict à genre je te donne un ordre, mais c'est inconscient, tu sais. Mais toutes ces petites affaires-là, quand tu fais un.
T'es avec un 2 secondes de silence après.
Ben exactement. Ah, puis tu sais, je parle dans une vidéo où est-ce que tu dis hey, clique sur le bouton en bas ou clique sur le bouton en bas. Mmh. C'est deux affaires complètement différentes dans l'intention que les gens vont avoir le goût de le faire. Puis c'est toutes des affaires inconscientes, mais ça reste. C'est pas un funnel, c'est pas rien de ça. C'est comment je vais véhiculer mon message par écrit, par vidéo, par audio, tu sais. Fait que c'est toutes des bases de maîtriser. Qu'est-ce qu'on parle avec des humains, là? Tu sais, puis des fois, on le perd de vue, tu sais. Hier, il y avait un gars dans ma semaine, il disait « Ouais, mais j'ai juste 700 abonnés. » 700 abonnés? Mets 700 personnes dans une pièce. Tabarnouche, c'est du monde, là. Tu sais, des fois, on se perd à comme « Ah, lui, il y a 1 million, oui. » Tabarnouche, 700 personnes dans une salle, là. C'est une audience, là. Tu sais, comme hier, j'écoutais le special de, nouveau special de Dave Chappelle sur Netflix. Il n'y a pas 700 personnes dans sa salle. Là, la non, salle non, est... Tu sais, fait que c'est fou l'audience, on s'en rend pas compte. Mais ça, c'est tous des gens que tu fais une conversation one-on-one, que faut que tu leur parles, faut que tu bâtis des relations avec eux. Fait que je pense que c'est vraiment de revenir à la base de on jase avec des humains, on fait affaire avec des humains, c'est une question de confiance. Puis
c'est ton client qui t'a dit... J'ai juste 700 abonnés. Moi, je le vois en influence marketing. Là. J'ai du monde qui en ont 1200 abonnés dans tous les athlètes qu'on a puis qui vendent deux fois plus que ceux qui en ont 25 000. Tu sais, c'est juste un chiffre sur la balance. Là.
Mm.
C'est pas ça qui dit à quel point que tu as... J'ai utilisé le mot de l'influence, mais disons de l'impact sur ton audience parce que de l'impact converti en... S'il y a bien quelque chose converti en vente, c'est avoir de l'impact sur... positif sur la vie des gens, bien sûr, pas de l'impact négatif, mais... Mais oui, tu sais, c'est 700 personnes. Là-dessus, il y en a peut-être 50 que si tu les impactes de la bonne façon, vont facilement convertir. Puis avec 50 clients par mois, ben excuse, mais t'es capable de bâtir un lifestyle quand même pas si mal.
Tu sais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des pensées limitantes à « Ah, mais je veux pas vendre, je veux pas proposer aux gens, tout ça. » Puis l'affaire, c'est que quand tu payes pour quelque chose, tu t'investis plus, puis tu auras plus de résultats.
100%.
Parce que si tu veux être en shape, OK, tu t'en vas sur T-Nation, t'écris prise de masse dans l'affaire, tu vas avoir 1000 articles, tu peux tout lire ça, mettre les choses dans l'application puis le faire. Pourquoi tu vas pas le faire? Parce que t'es pas engagé monétairement, tu t'es pas engagé, t'as pas signé quelque chose, tu t'es pas dit je le fais, t'es pas redevable en quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est comme, faut changer le mindset des fois, puis je le vois souvent dans les entraîneurs, mais la vente, là, c'est d'aider les gens, dans le fond. T'sais, le marketing, c'est d'aider les gens. Tu veux aider les gens, c'est ça ta mission. Il n'y a personne qui est entraîneur pour faire du cash. On est tous là pour la passion, pour aider les gens. Sauf que si tu veux aider beaucoup de gens, si tu veux vivre de ta passion pour faire ça dans les 15 prochaines années, faire une carrière là-dedans, tu as besoin de te faire connaître, de bâtir de la confiance, puis les gens achètent tes services. Pourquoi? Bien parce que ça va les aider encore plus, parce qu'ils sont engagés. De donner du contenu gratuit, mais de rien offrir après ça, c'est vraiment d'être selfish, parce que tu n'aides pas les gens comme ils devraient t'aider. Tu fais juste faire ce qui est simple pour toi, puis tu te mets pas dans des trucs inconfortables pour aider plus les gens.
Mais finissons là-dessus, je trouve ça intéressant, le changement de mindset par rapport à vendre un produit. C'est un produit de coaching surtout, où tu rends service aux gens plutôt que tu as l'impression de prendre l'argent dans leur poche. T'sais, je pense que si tu es capable de faire ce switch de mindset-là, ça change absolument tout. Là.
T'sais, surtout, t'sais, j'ai l'impression qu'au Québec, là, l'argent, c'est vraiment tabou. Puis de, de parler de chiffres, puis de « Ah, je veux pas vendre, je veux pas le monde me trouve fatiguant », puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que si c'est bien fait, le monde ne va pas être trop fatiguant. Puis si c'est apporté à genre « Je veux vraiment t'aider, puis je veux que tu sois engagé », puis c'est pour ça qu'il y a un prix. Puis moi, je veux travailler juste avec un nombre de personnes limitées parce que je veux offrir un bon service, puis je veux pas être brûlé parce que je travaille gratuit puis je fais 80 heures par semaine. Puis en même temps, ben, je veux vivre la vie que je veux vivre, puis je veux qu'ensemble, on soit capable des deux d'atteindre nos objectifs. Est-ce qu'on fait un échange? Tu me donnes de l'argent, puis moi, je te donne full de valeur, puis je te donne les résultats que tu veux. Puis tu vas être engagé, puis tu vas être motivé. Puis... Tu sais, c'est vraiment ça, il faut le voir, que c'est juste un échange. Tu sais, l'argent, c'est de l'énergie qui bouge, puis elle s'en va dans ta poche, puis elle s'en va dans la poche de quelqu'un d'autre, puis ça tombe. Là, si tu regardes le nombre d'argent qui est passé dans ta poche, puis que dans ma poche, dans ta poche, dans sa poche, c'est comme ça fait juste tout le temps bouger, puis il faut le voir de cette façon.
Puis en même temps, si t'es pas capable de faire ce switch de mindset-là éventuellement, c'est-tu parce que ultimement le produit que t'offres devrait pas être en vente, peut-être? Tu posais des questions peut-être. Par rapport à ça. Jake, on switch,
ben oui.
On switch l'épisode, on va maximiser notre temps, évidemment, comme on va dire tantôt. On arrive au bout du rouleau pour le temps de cet épisode-là. Merci à ceux qui nous suivent. Bien sûr, si vous aimez le podcast, 5 étoiles en commentaire écrit sur l'application Balados, Spotify, on s'abonne. Et n'oubliez pas que si vous voulez faire partie du groupe privé qui ont les épisodes d'avance, écrivez-moi sur Instagram et on s'en reparle. Fait que Jake, merci.
Oui, merci. C'est de votre écoute.